Manuel Valls attendu en Calédonie, ce sera l'un des temps forts de cette fin de semaine. Il doit mener une nouvelle séquence de discussion avec les élus calédoniens sur l'avenir institutionnel. Un violent carjacking à Thiot mercredi dernier, un homme de 34 ans a été interpellé. Il avait frappé sa victime pour lui voler sa voiture. Il comparaîtra demain devant la justice. En métropole, de très nombreuses réactions après l'agression du rabbin d'Orléans. Il a été frappé en pleine rue par un adolescent sous les yeux de son fils. À l'étranger, une interview du président algérien très remarquée. Après des semaines de tensions entre la France et l'Algérie, Abdelmajid Tebboune semble ouvrir la porte à un apaisement. Le pape François va mieux, il a salué et béni la foule avant de rentrer au Vatican. Il était hospitalisé pour une double pneumonie depuis le 14 février. Dans la page sport du football, avec l'équipe de France qui affronte la Croatie dans un quart d'heure, victoire obligatoire pour rejoindre les demi-finales de Ligue des Nations. En Formule 1, doublé McLaren au Grand Prix de Shanghai, les deux Ferrari ont été disqualifiés. Et puis en football, dans la région, à 17h, la sélection calédonienne affronte la Nouvelle-Zélande pour tenter de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Jean-François.
Bonjour Thierry et bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, avec plusieurs rendez-vous importants, notamment en fin de semaine, Michael Zuneski avec l'arrivée du ministre des Outre-mer, mais aussi une séance au Congrès.
Ouais, c'est en effet vendredi que les élus du Congrès se retrouveront boulevard Vauban pour une séance publique. À l'ordre du jour, l'examen des budgets primitifs 2025 de la Nouvelle-Calédonie. Les élus sont convoqués à 8h et la séance devrait durer toute la journée. Deux autres collectivités examineront leur budget cette semaine, la province des îles mardi et la ville de Nouméa mercredi en fin d'après-midi. Semaine importante pour l'économie mais aussi donc pour l'avenir institutionnel puisque c'est en fin de semaine que Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, doit revenir sur le territoire pour une nouvelle séquence de discussion avec les élus calédoniens sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Si aucune date n'a encore été confirmée par les services de la rue ou Dino, Manuel Valls devrait toutefois arriver en Calédonie samedi prochain.
Parmi les autres rendez-vous de la semaine à retenir, notez qu'aujourd'hui à 10h, Manuel Van Arscott, le directeur diocésain de l'enseignement catholique, rencontrera la presse pour une déclaration solennelle. Il doit évoquer les enjeux liés au financement de l'enseignement catholique. Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, présentera lui sa plateforme internet baptisée Pétition citoyenne, qui se veut être un espace public d'expression. Dans l'actualité syndicale, la FEDE tiendra jeudi et vendredi un colloque consacré à son plan de refondation sociale et solidaire. Enfin, le week-end prochain, l'ACAPA, l'association calédonienne d'aide aux personnes âgées, organisera son grand loto annuel dans ses locaux du Faubourg Blanchot. Dimanche prochain, je vous rappelle que la métropole passera à l'heure d'été. Le décalage horaire entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole passera de 10h à 9h. Et puis un rendez-vous à noter sur l'antenne de Radio Rythme Bleu à 7h30. C'est Raphaël Romano, le président de l'association Un Cœur, Une Voix, qui sera notre invité du matin.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Attendez-vous des avancées sensibles sur l'avenir institutionnel de la visite de Manuel Valls qui est attendue samedi en Calédonie? Si vous attendez des avancées sensibles, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. À la une de l'actualité en métropole, de très nombreuses réactions après l'agression du rabbin d'Orléans. Samedi soir, en pleine rue, Harry Elgenberg a été frappé à la tête, mordu et insulté sous les yeux de son fils de 9 ans. C'est un adolescent de 16 ans, auteur des faits présumés, qui a été interpellé. Le rabbin qui a raconté ce qui s'est passé.
On rentrait de la synagogue avec mon fils. Il y a un jeune individu qui nous voit arriver au loin et il commence à crier en disant « Monsieur, est-ce que vous êtes juif ?» Je réponds « Oui ». Et il dit « Tous les juifs sont des fils d'eux ». C'est l'insulte et il crache, tout en se filmant et en nous filmant à nous. Moi, à ce moment-là, je me dis « Si je n'agis pas, cette vidéo, elle va tourner partout. On va voir un juif, un citoyen français, un rabbin de communauté en train de se faire insulter, cracher dessus et qui trace sa route, pardonnez-moi du terme. » Je dis « C'est pas possible ». Donc, je me suis approché de lui. Et j'ai touché son téléphone de manière qu'il puisse continuer de filmer. Puis ensuite, c'est parti dans des coups.
Voilà donc pour le récit de cette agression du rabbin d'Orléans par un adolescent de 16 ans qui a été interpellé par la police. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
On sait déjà qu'il a été interpellé par la BAC hier soir aux alentours de 21h et qu'il est inconnu des services de police. Mais le doute persiste en revanche sur son identité réelle, toujours en cours de vérification ce soir, car le suspect ne possédait pas sur lui de documents permettant clairement d'établir son identité. Selon plusieurs sources policières, le suspect serait connu sous trois identités différentes, une marocaine et deux palestiniennes. Une chose est en tout cas certaine, le rabbin d'Orléans agressé hier l'a formellement identifié comme étant son agresseur.
Une agression qui fait beaucoup réagir. Emmanuel Macron a dénoncé sur X le poison de l'antisémitisme. Un rassemblement est en cours, place de la Bastille à Paris, pour dénoncer les actes antisémites. De l'antisémitisme au racisme, il n'y a qu'un pas, et notamment le racisme anti-blanc. Invitée du grand rendez-vous européen CNews Les Échos, la porte-parole du gouvernement Sophie Primas a révélé que sa fille en avait été victime.
Moi, j'habite dans un endroit dans les Yvelines qui sont avec beaucoup de populations de toutes les origines, etc. Et il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme anti-blanc. Je n'ai pas de pudeur à vous dire ça.
Sophie Prima, porte-parole du gouvernement, qui est donc l'invitée du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Émission que vous pourrez entendre ce soir, juste après notre édition de 17h45. En attendant, 6h36 sur Radio Rythme Bleu. Dans un instant, c'est une page consacrée à l'actualité à l'étranger.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
RRB, 6h, 8h, Jean-François Bodin.
L'actualité à l'étranger est marquée par cette interview télévisée du président algérien. Une prise de parole plutôt rare qui a eu un certain impact. Après des semaines de tensions et de brouilles autour des tentatives d'expulsion par la France de ressortissants algériens, Abdelmadjid Tebboune semble accepter la main tendue de la France. Jacques Serret pour Europe 1.
Cette sortie semble avoir eu de l'écho à Alger. Abdelmadjid Tebboune joue la carte de l'apaisement, mais uniquement avec le locataire de l'Elysée.
Unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension. Tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre, dont c'est les prérogatives, à savoir le ministre des Affaires étrangères, Fouad Mbad.
Une main tendue à Emmanuel Macron, à Jean-Noël Barrot, mais un bras d'honneur à Bruno Retailleau. Le bras de fer engagé par le ministre de l'Intérieur ne semble pas être du goût du président algérien, qui d'ailleurs ne se prive pas, dans la même interview, de décrier la France.
Il y a un Algérien, on vient de le mettre sous OQTF parce qu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Beaucoup de cas comme ça, c'est des dizaines de cas par jour. C'est la liberté d'expression, je dis ce que je veux et tu te la fermes. Qu'est-ce que vous voulez penser?
Abdelmadjid Tebboune, qui n'a fait aucune annonce au sujet de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien risque toujours jusqu'à 10 ans de prison.
Toujours à l'étranger, une nouvelle étape dans la recherche d'un cessez-le-feu en Ukraine. Les discussions ont repris à Riyad entre les délégations américaines et ukrainiennes. Elles doivent porter entre autres sur des propositions visant à protéger les installations énergétiques et critiques, mais bien des questions restent à résoudre encore, explique Patrick Martin-Genier. Il est spécialiste des questions européennes et internationales.
Est-ce que les navires pourront circuler librement? Est-ce que le cessez-le-feu comprend l'arrêt de toute intervention maritime? Est-ce que les Américains vont donner des garanties de sécurité à l'Ukraine? Tout cela reste encore très flou.
Et les négociateurs américains parlent de la signature d'un cessez-le-feu aux alentours du 10 avril. À Rome, le pape François est apparu à la fenêtre de la clinique Gemelli, où il est hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie. Assis dans un fauteuil roulant, il a salué et béni la foule. Le récit d'Antonino Gallofaro.
Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, en effet, devant l'hôpital pour voir le pape François. Pour la première fois depuis plus d'un mois, les fidèles étaient en liesse.
Francesco! Francesco!
Le pontife est apparu une petite minute seulement, en chaise roulante au balcon du deuxième étage de l'hôpital, souriant même s'il a l'air très éprouvé, le temps de saluer les fidèles et de leur adresser quelques paroles.
Merci à tous. Et je vois cette dame avec les fleurs jaunes. Quelle gentillesse.
Le pape est ensuite monté à bord de sa voiture pour rentrer chez lui au Vatican, mais pas avant de faire un détour par la basilique de Sainte-Marie-Majeure, là où il se rend régulièrement avant et après chacun de ses voyages pour remercier la Sainte Vierge Marie. Il est maintenant dans sa résidence de Sainte-Marthe, derrière la basilique Saint-Pierre, où il doit rester en convalescence encore pendant 2 mois, avec ce point d'interrogation pour les fidèles. Le verront-ils à nouveau pour les fêtes de Pâques dans un mois tout juste?
Il est 6h41 sur Radio Rythme Bleu. Nouvelle pause avant de revenir à l'actualité en Calédonie. Nous parlerons de cette affaire de carjacking mercredi à Thiot. Un homme a été interpellé.
RRB, 6h-8h, Jean-François Bodin. Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, retour à l'actualité sur le territoire, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, avec cette affaire de carjacking violent à Thiot qui a abouti à l'interpellation d'un individu, le procureur de la République a livré des détails sur cette affaire qui remonte à mercredi dernier, Michael.
Les faits s'étaient produits vers 9h sur la route, entre Upawani et la déchetterie. Une agricultrice de Thiot, âgée de 55 ans, se rendait à la déchetterie. Elle a été stoppée sur son trajet par un automobiliste qui venait de la dépasser. L'homme est sorti de son véhicule avec une clé en croix destinée à l'intervention sur des pneumatiques et il a ordonné à la conductrice de sortir de sa voiture. Comme elle refusait, l'agresseur a saisi la victime par le bras pour l'extraire de sa voiture. Alors qu'elle prenait la fuite en possession du trousseau des clés du véhicule, il l'a poursuivie et l'a frappée au niveau des bras et du thorax pour l'obliger à lui remettre les clés. La victime a également été insultée à plusieurs reprises de, je cite, « sale blanche, bâtarde, tu n'as rien à faire ici », précise le procureur. Après avoir récupéré les clés, l'homme s'est emparé du véhicule et a pris la fuite. Les gendarmes sont finalement parvenus à l'identifier. Âgé de 34 ans, il est domicilié à la tribu de Saint-Gabriel, à Thiot. Il s'est présenté aux gendarmes à leur arrivée à la tribu en reconnaissant sa participation au carjacking. Le véhicule a été retrouvé à la plage de Moara, dissimulé dans des brousses. Il a été restitué à la victime. Lors de sa garde à vue, l'auteur présumé a reconnu avoir bloqué la victime pour lui voler sa voiture. Il a admis avoir porté des coups sans se souvenir de manière précise de ses gestes puisqu'il était, selon ses dires, alcoolisé. Déjà condamné pour des faits de vol et de violence volontaire, l'agresseur a été déféré au parquet vendredi dans le cadre de la comparution déférée à l'audience de demain pour répondre du délit d'extorsion d'un bien par violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Ce délit est puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. L'auteur présumé a été placé en détention jusqu'à sa comparution à l'audience.
Toujours au chapitre des faits divers, la circulation a été fortement perturbée samedi après-midi sur la RT1 à Dumbéa. Un accident de la route s'est produit vers 14h30 au pied du col de Tongwe au niveau de la supérette Le Colimbri. Un véhicule qui roulait en direction de Nouméa s'est déporté sur la voie de gauche pour une raison inconnue. Il a percuté de plein fouet une voiture qui arrivait en face. Le conducteur du véhicule qui a causé l'accident a été très grièvement blessé. Les 2 personnes à bord de la voiture percutée, eux, ont été légèrement blessées. La circulation a dû être entièrement bloquée le temps de l'intervention des secours. Et puis l'actualité judiciaire et le dernier procès de la première session d'assises de l'année s'est terminé en samedi, en début d'après-midi. Pendant 4 jours, c'est un homme de 40 ans qui était assis dans le box des accusés. Il a comparu pour avoir tué sa compagne après une violente dispute en juillet 2022 à Nouméa. Bastia. Il a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont suivi les réquisitions du ministère public qui avait requis hier matin une peine de 20 à 22 ans de réclusion criminelle.
À Radio Rythme Bleu, 6h45.
Et revenons maintenant sur les activités qui ont marqué ce week-end de mars à Nouville. Ce sont près de 140 exposants qui étaient réunis à la Chambre des métiers et de l'artisanat pour le salon Habitat Déco. Événement très attendu par les artisans qui peinent toujours à se relever de la crise économique. Il y a eu une belle affluence, notamment samedi et dimanche. Écoutez la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Elisabeth Rivière, qui dresse un bilan positif de ce salon.
Écoutez, ce salon s'est très bien passé. Une ambiance aussi très chaleureuse, les gens souriants, que ce soit les exposants ou les visiteurs. Pour nous, c'est un vrai succès. Le salon a été très, très fréquenté. Alors, on sait que sur un salon, il n'y a pas forcément des achats tout de suite, mais ça permet aux entreprises de se faire connaître, d'avoir des contacts et de pouvoir aller dès la semaine prochaine chez les gens pour pouvoir faire les devis et vraiment être au plus près des besoins de la population calédonienne pour répondre au mieux à ce qu'ils veulent effectuer comme travaux, aménagements.
Et ce salon Habitat Déco a rassemblé pendant 3 jours des artisans du secteur de l'aménagement intérieur et extérieur. À Dumbéa, les 18 conseillers jeunes ont fait leur rentrée ce samedi, réunis pour la première séance plénière de l'année à l'hôtel de ville en présence du maire Johan Lecourieux. Les membres du conseil jeunes, âgés de 13 à 22 ans, ont dressé le bilan de l'année 2024 et présenté leurs projets pour 2025. Et puis toujours samedi, au marché de gros de Ducos, un apiculteur de l'Ifou a reçu officiellement sa médaille d'or du Salon de l'agriculture de Paris. Paul Kekweng, le fondateur de la Casse du Miel, a reçu son prix porté par le concours agricole national des mains du président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie. Paul Kekweng était fier de recevoir cette distinction.
C'est toujours le rêve des producteurs d'avoir cette belle récompense. On dit toujours le meilleur label pour un produit, c'est d'être récompensé dans un grand salon international de renommée. 70% des miels de l'Ifou est déjà primé chaque concours local. C'est aussi grâce à la biodiversité. Il y a aussi beaucoup de bons miels ici sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un très bon produit. On a aussi le travail aussi des apiculteurs, qui a un savoir-faire qu'il faut continuer à préserver. Aujourd'hui, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est vraiment un marché à l'export qui va pouvoir vraiment faire sortir au niveau de la filière miel de la Nouvelle-Calédonie.
Et Paul Nekweng s'est imposé dans la catégorie miel tropical foncé. Il s'agit de la seule médaille d'or pour le miel décrochée par les Outre-mer lors de ce salon d'agriculture à Paris. On en vient à l'actualité dans la région Pacifique. À Canberra, le gouvernement d'Anthony Albanese a été invité à obtenir des éclaircissements de la part de Washington à la suite d'informations selon lesquelles l'administration américaine s'apprête à annuler les fonds de recherche qu'elle accordait jusqu'à présent à 7 universités australiennes. Les détails avec notre correspondant à Sydney, Jean-Pierre Zajac.
Ces 7 universités percevaient chaque année des USA une somme équivalente à 42 milliards de nos francs. Leurs chercheurs ont récemment reçu une note de Washington leur demandant de justifier pourquoi ils doivent continuer à recevoir des subventions américaines dans le domaine de la recherche. La même note les invitait à révéler s'ils ont perçu des financements de la Chine et si leur université reconnaît uniquement 2 sexes, à savoir masculin et féminin. Le Bureau américain de la gestion et du budget a déclaré que l'aide financière accordée aux chercheurs australiens était un gaspillage de l'argent des contribuables et a ajouté que la priorité des dépenses fédérales irait, je cite, à la volonté du peuple américain. Un porte-parole du ministre australien de l'Éducation, Jason Clare, a déclaré en réponse que le gouvernement Albanese continuera de plaider en faveur de la poursuite de la collaboration australo-américaine sur des projets de recherche importants. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Dans quelques secondes, il sera à 6h50, une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive, toujours évidemment très dense le lundi matin.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La Chambre d'agriculture et de la pêche organise sa vente annuelle de bovins jeudi 27 mars à partir de 9h à la station d'élevage de Nessadiou à Bouraille. Seront mis en vente des taureaux Belmont, Red et Limousin ainsi que des femelles gestantes Limousine. Pour plus d'informations, contactez la station d'élevage au 75 11 24 ou 44 52 45.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer à la une de l'actualité sportive par le football. Mickaël Juneski, l'équipe de France affronte ce matin la Croatie. Ça compte évidemment pour les quarts de finale, retour de la Ligue des Nations.
Oui, les Bleus battus 2-0 au match aller par les Croates doivent mettre les bouchées doubles pour reprendre l'avantage. Mais on a déjà entendu les prises de parole d'avant-match. Les tricolores accusent notamment un calendrier de compétition trop intense puisque plus de la moitié de l'effectif de Didier Deschamps est également engagé dans les derniers grands rendez-vous de la saison pour les clubs. Vont-ils tout de même aller chercher un exploit pour tenter de poursuivre l'aventure dans cette compétition internationale? Alors on joue depuis quelques minutes seulement et le score est toujours de 0-0 sur la pelouse du Stade de France. Les autres affiches au menu de ces quarts de finale retour de la Ligue des Nations: Espagne, Pays-Bas avec deux sélections qui s'étaient quittées sur un nul à l'aller, 2-0. Portugal-Danemark, les Danois mènent 1-0 et Allemagne-Italie, avantage à la Mannschaft qui s'était imposée 2-1 à l'aller. Tous ces quarts de finale retour se disputent en simultané.
L'actualité du rugby maintenant avec notamment la dernière rencontre de la 19e journée de Top 14.
Ce sera un duel au sommet ce matin. Le leader, le Stade Toulousain, se déplacera sur le terrain de l'UBB. L'Union Bordeaux-Bègle, qui vient de perdre provisoirement la deuxième place du championnat de France au profit de Toulon, large vainqueur hier de Perpignan 40-19. En clair, les Girondins sont déjà sous pression, distancés actuellement de 5 points par l'impérial Stade Toulousain, qui même avec son équipe B, entre guillemets, se révèle tout aussi performant qu'avec ses internationaux. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 7h05.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
C'était hier le Grand Prix de Chine de Formule 1. Victoire de l'Australien Oscar Piastri. C'est donc un deuxième succès d'affilée pour les McLaren.
Après la victoire de Lando Norris à Melbourne, cette fois c'est son coéquipier qui a remporté la course à Shanghai. Piastri qui s'impose juste devant Norris pour un doublé McLaren. Alors que George Russell sur Mercedes se classe troisième. Max Verstappen, le quadruple champion du monde en titre sur Red Bull, arrive en quatrième position. La belle surprise française, c'est pour Esteban Ocon. Il a franchi la ligne d'arrivée en fait en 7e position, mais il a bénéficié par la suite des disqualifications des Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, tout comme Pierre Gasly sur Alpine d'ailleurs. Ils ont tous été déclarés en infraction après le Grand Prix par l'inspection technique. Esteban Ocon se classe donc 5e. Une grande joie pour le pilote qui espère faire encore mieux au sein de sa nouvelle écurie Haas.
J'ai vu que j'avais le bon rythme, il nous manquait un petit peu de vitesse en ligne droite et quelques petits trucs par-ci par-là, mais honnêtement, voilà, ça fait plaisir. D'où on partait à Melbourne, je pense que ouais, tout le monde est hyper content. On a vraiment réussi à retourner la situation en une semaine, ce qui n'était pas non plus ce qu'on pensait qu'elle allait arriver. Mais voilà, ça montre qu'on sait où on va. Il y a encore du potentiel sur cette voiture. On l'a montré aussi dans les quelques derniers tours de cette course. Et voilà, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là pour cette saison.
Le dernier Français en lice, Isaac Hadjar, a quant à lui terminé à la 11e place. Alors au classement du championnat du monde, Lando Norris est toujours aux commandes devant Max Verstappen, George Russell et Oscar Piastri. Prochain Grand Prix dans 2 semaines, cette fois ce sera au Japon.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques toujours avec la troisième manche du championnat du monde des rallyes et Elfyn Evans s'est imposé au Kenya.
C'est la deuxième victoire de la saison pour le Gallois au volant de sa Toyota. Il termine en tête du classement à l'issue des 21 spéciales du week-end devant l'Estonien Ott Tänak et le champion du monde en titre, le Belge Thierry Neuville, tous deux sur Hyundai. Elfyn Evans qui accentue ainsi son avance en tête du championnat du monde.
Et puis clap de fin sur la Coupe du monde de biathlon avec malheureusement une grande désillusion pour la Française, Lou Jean Monod.
Pire des scénarios même pour la tricolore qui avait réalisé un coup de maître hier en s'emparant du classement général de la Coupe du Monde après sa victoire sur la poursuite. C'était sans compter la performance magistrale de l'Allemande Francis Capreus qui a gagné l'ultime étape de la saison, la Mastart à Oslo, là où la Française n'a fini que troisième. Conséquence, la représentante de l'Allemagne coiffe au poteau la tricolore pour remporter le gros globe de cristal. Chez les messieurs, on signalera qu'Éric Perrault a terminé à la deuxième place de cette Mastart derrière le Suédois Sébastien Samuelsson.
On en vient maintenant au sport. Avant de passer au sport côté calédonien du tennis, il n'y a plus que deux Français en lice au troisième tour des Masters 1000 de Miami.
Seul Arthur Fils et Gaël Monfils sont encore dans l'aventure. Gaël Monfils sera opposé aujourd'hui à l'Espagnol Jaume Muñar, 56e joueur mondial, déjà tombeur au tour précédent du redoutable russe Daniil Medvedev. Quant à Arthur Fils, il défiera demain l'Américain Francis Tiafoe.
On en vient donc au sport côté calédonien avec d'abord du football hors du territoire puisque la sélection A va disputer, c'est du football, donc la finale des éliminatoires à la Coupe du Monde pour la zone Océanie.
Après la victoire 3-0 sur la Polynésie française, les Calédoniens seront opposés à la Nouvelle-Zélande qui a pour sa part corrigé l'équipe de Fidji sur le score de 7-0. Les enjeux de cette finale, on les connaît bien désormais. Un succès et c'est la place au Mondial américain de 2026 qui est assurée. En cas de défaite, les Calédoniens bénéficieront tout de même d'une dernière chance en allant jouer des nouveaux éliminatoires de repêchage pour ainsi dire contre des sélections nationales en ballottage pour tenter d'accéder à la prochaine Coupe du Monde. En attendant donc, ce match Nouvelle-Zélande-Calédonie se disputera sur la pelouse de l'Eden Park d'Auckland sur les terres des Kiwis. Ce sera ce soir à partir de 17h heure de Nouméa.
Et puis revenons sur l'essentiel des compétitions du week-end en Calédonie, notamment du tir à l'arc avec un nouveau rendez-vous qualificatif pour les mini-jeux du Pacifique.
Oui, une double compétition qui se tenait ce dimanche sur le site de Dimbéa, sur 50 mètres extérieur national et 70 mètres extérieur international, arc classique et arc à poulie, une vingtaine de pratiquants au rendez-vous. Et au milieu de la grande famille des archers, on retrouvait de tout jeunes talents qui aiment cette discipline et qui commencent de rêver d'échéances régionales, les mini-jeux déjà, et plus lointains encore, les Jeux de Tahiti. On les écoute.
Moi, je m'appelle Maël Fontaine. J'ai 16 ans, bientôt 17, puis surclassé en U21 en catégorie junior.
Moi, je m'appelle Léron Simone, j'ai 19 ans, je suis surclassé aussi en U21.
Moi, je m'appelle Mathéo Lecrache. Moi, ça fait 8 ans que je fais du tir. Et ouais, sport, vu que j'ai du tir depuis que je suis tout petit, c'est comme un endroit où j'ai grandi, quoi. C'est une genre de deuxième maison un peu.
On essaye de faire le plus qu'on peut pour pouvoir être éligible pour toutes ces compétitions internationales qui sont fortement intéressantes. L'opportunité d'y participer, ça serait vraiment incroyable.
On essaye de faire de notre mieux. Ce qui est bien avec ce sport, c'est que ça fait libérer l'esprit. Ça permet de penser à autre chose, s'évader un peu.
Je me dis, comme sur toutes mes compétitions, on est là pour tirer, on est là pour s'entraîner. On n'est pas là pour viser les scores. Bien sûr, c'est cool si on les fait, mais on est surtout là pour faire ce qu'on sait faire et le montrer. C'est comme un système d'examen un peu, et on voit si ça rentre ou pas.
Et côté résultat, on signalera en arc classique les victoires de Maël Fontaine en moins de 18 ans, de Simone Néron moins de 21 ans, Yannick Fleureau senior dame, Yann Riguel senior homme, toujours en classique, Virginie Giban l'emporte en senior national 2, Tanguy Giban senior 2 national en arc à poulie, notamment Mathéo Lecrin, ce troisième jeune que vous avez entendu, qui s'impose chez les moins de 18 ans, Chloé Lemoine chez les seniors femmes, Xavier Mangouin chez les seniors hommes 1, comme Alexandre Lecrin en senior dame 2.
D'autres résultats en bref. bref, Michael.
Oui, hein, 950 participants qui étaient au rendez-vous du NEA City Trail hein, ce samedi, organisé par Pro Events. Grand succès populaire, ambiance festive sur l'épreuve phare de 15 km. C'est Jérémy Marie qui a été le plus rapide devant Simon Robin et Ludovic Lanceleur. Angélique Plaire a terminé meilleure féminine. Il y avait aussi de la natation, près de 120 nageurs qui étaient au rendez-vous ce week-end pour un dernier meeting qualificatif, notamment en vue d'intégrer la sélection des mini-jeux du Pacifique. Enfin, un dernier mot de kitesurf. La deuxième étape du challenge Bureau Vallée, ça se passait au large de Nouméa. Victoire chez les jeunes de Raphaël Vainmain. En Open, c'est Tom Hébert qui l'emporte.
On reviendra évidemment sur tous ces résultats dans le magazine des sports à midi, juste après le journal de 11h30. Et puis nous parlerons notamment de la saison 2025 des rallyes. Nous recevrons l'ancien président de l'Association des sports automobiles de Nouvelle-Calédonie, Jean-Louis Lérault, et son successeur Romain Leandro pour présenter la reprise de la discipline. Il est 7h, c'est l'heure de la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
On vous écoute Thierry.
Oui, ce matin sur la côte est, la pointe sud et l'île des Pins ainsi que les Loyautés, les passages nuageux qui circulent s'accompagneront d'ondées sur la façade ouest. Le soleil dominera largement. L'alizé pour ce matin orienté est-sud-est autour des 10 à 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds, ce sera sur la pointe nord-est. Sur la côte ouest, il sera plus faible. Les brises de sud-est s'établiront ensuite autour de 10 nœuds en fin de matinée. Cet après-midi, sur le relief, les averses se développeront puis déborderont sur l'ouest. Ailleurs, un temps ensoleillé prédominera. L'alizé, lui, pour cet après-midi orienté sud-est se renforce autour des 15 à 20 nœuds sur l'ouest et la pointe nord-est. Les températures augmentent légèrement, 28 à 30 degrés en général et jusqu'à 31 voire 32 degrés, ce sera sur l'ouest.
Merci Thierry, il est 7h01. Dans un instant, ce sera le rappel des principaux titres de l'actualité. Vous retrouverez ensuite la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir comme chaque lundi avant votre rendez-vous. Vous avez un avis, à tout de suite.